Je suis très heureux d'être ici parmi vous ce matin. Comme Virginie l'a dit, je voudrais vous parler du christianisme de la grâce et, partant, de la catéchèse de la grâce. En un mot, quand même, pour situer tout de suite la question, la grâce, qu'est-ce que c'est ? La grâce, ce n'est pas un objet de conquête. Ce n'est pas ce qu'on fabrique. Ce n'est pas ce qu'on produit. Ce n'est pas ce qu'on mérite, c'est ce qui est donné. Et donné à tous et à toutes, sans exception. C'est ça la grâce. Je voudrais vous parler du catéchisme de la grâce et de la catéchèse de la grâce. Ce n'est pas nouveau dans le christianisme, bien entendu. Le christianisme, d'emblée, parle de la grâce. Mais quand on voit l'histoire du christianisme, la grâce a été présentée de manière différente selon les visions que l'on avait du christianisme. C'est comme ça qu'on peut distinguer différentes figures de christianisme. Je vais en prendre deux. Il y a le christianisme de la loi. Le christianisme de la loi, c'est le christianisme de vos grands-parents ou de vos arrière-grands-parents, selon l'âge que vous avez. C'est un christianisme de la loi où le problème essentiel était le devoir, ce qu'on devait faire, et c'est le respect de la règle. C'est le christianisme que nos catéchismes ont transmis pendant 4 siècles, depuis le Concile de Trente, hein, les vérités qu'il faut croire, les sacrements qu'il faut recevoir, et les commandements qu'il faut observer. Vous voyez, c'était un christianisme d'un triple il faut. C'est un christianisme du devoir où l'essentiel était d'être en conformité avec la règle. Alors ce christianisme-là, il a beaucoup de chrétiens ont vécu comme cela, avec relativement suffisamment de bonheur. Parce que ce christianisme de la loi, il donnait des directions, il donnait une stabilité à la vie, il y avait des choses qui étaient claires, mais on sait aussi que ce christianisme de la loi, il a produit beaucoup de malheurs. Les gens vivaient dans la peur, peur du péché, peur du jugement, peur d'un Dieu qui punit. Je vais vous raconter quelque chose de concret. Mon propre cousin, j'avais un cousin, à peu près de mon âge, mais il avait un Alzheimer profond. Il avait oublié le nom de sa femme. Il ne connaissait même plus le nom de sa femme. Il ne savait pas qu'une de ses filles était morte d'un cancer. Et à la fin de sa vie, je l'ai rencontré, j'ai vu et je lui parlais. Il me regardait des yeux perdus, en répétant comme ça, convulsivement, péché mortel, péché mortel, péché mortel. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est resté de son éducation chrétienne, sinon se souvenir d'une menace, d'un jugement et d'une condamnation éternelle. C'est ça dont il portait le souvenir de son christianisme. Quand on voit ça, moi, ça me touchait beaucoup. Mais non, il faut demander pardon. Il faut demander pardon pour la manière dont on a parlé de la foi. Les gens ont vécu la foi avec une conscience malheureuse, dans la crainte du péché, dans la crainte du jugement, dans la crainte de la condamnation. Ça, ce sont les travers. C'est pas la loi que je critique ici. La loi, elle est là, elle est à suivre. Mais c'est les travers, ça a conduit à des outrances dans le domaine de la culpabilisation. Ça, c'est le christianisme de la loi. Aujourd'hui, notre monde a dépassé cela. On n'est plus dans ce christianisme de la loi, grâce à Dieu. Il y a un autre christianisme encore qui a existé, que nous avons connu, c'est le christianisme de la militance, du militant, de celui qui s'engage dans la transformation pour un monde meilleur, l'engagement humanitaire, l'engagement dans l'action catholique, l'engagement au fond dans le soupe préférentiel pour les pauvres, etc. C'est un engagement des valeurs qui sont évangéliques. Et c'est très bon, hein. L'évangile est là. Heureux tous ceux qui pratiquent les valeurs évangéliques. Mais aujourd'hui, ce christianisme de la méditance, du combat, de l'action, il s'essouffle un peu sur le plan de la foi. Vous l'avez remarqué, il y a des tas de gens comme ça qui sont engagés selon les valeurs évangéliques, mais la foi, l'Église, les sacrements, non, ça s'est estompé. Et beaucoup de nos jeunes, d'ailleurs, on entend ça chez les parents. Hein. Les parents disent « Ah, mes enfants, ils sont merveilleux. Ils vont pas à l'Église, ils vont pas à l'Église, mais ils sont merveilleux. Ils vivent les valeurs évangéliques. » Mais c'est vrai, les valeurs sont là, l'action est là, mais on dirait que l'aspect de foi, l'aspect d'engagement dans l'Église, de reconnaissance d'un Dieu bon, s'est estompé. Et c'est vrai que c'est pas nécessaire d'être chrétien pour être... pour combattre pour un monde meilleur. Ce n'est pas nécessaire d'être chrétien. Donc je me dis que ce christianisme de la militance, hein, qui essaie de transformer le monde au nom de la foi, il y a quelque chose là-dedans qui fait que la foi, eh bien, parfois, elle peut s'estomper et elle peut disparaître, tout en gardant les valeurs, tout en gardant le combat pour un monde meilleur. Alors ce que je voudrais dire, c'est précisément, peut-être qu'aujourd'hui, un christianisme de la grâce pourrait être intéressant, désirable, bon pour le monde d'aujourd'hui. Un monde de sécularisation. C'est vrai que nous voyons autour de nous le christianisme, quelque part, s'est effondré. Hein. Il s'effondre encore. Donc on est dans un monde sécularisé. Je crois qu'on ne peut pas combattre la sécularisation, mais on peut vivre dedans. Et dans cette sécularisation, prévoir un monde où collaborer, contribuer à un monde où la foi demeure audible, crédible, compréhensible, désirable. Au fond, il nous faut entrer dans un monde, non pas un monde qui reviendrait en arrière, qui redeviendrait un monde de chrétienté. Je crois qu'il faut perdre ça. Mais dans le monde qui est, œuvrer pour que la foi dans un monde séculier, on pourrait dire dans un monde post-séculariste, parce que le monde continue, l'histoire continue, l'évolution continue, bien, ces pensées contribuent à l'émergence d'un monde où la foi chrétienne est possible. Dans le monde séculier, dans le monde sécularisé que nous connaissons. Et le christianisme de la grâce est aussi très important, je crois, dans un monde où la violence est très présente. Regardez aujourd'hui les guerres, la peur de la guerre, la peur d'une troisième guerre mondiale. Justement, précisément parce qu'il y a beaucoup de violence dans le monde, on a d'autant plus besoin d'une foi qui repère dans l'existence la grâce, c'est-à-dire l'amour qui est là en fait. Dans le monde sécularisé, l'amour est là. Il y a de l'amour qui circule partout. Et donc, le christianisme, la grâce, je crois, il est adapté à un monde qui est marqué par la violence, pour combattre la violence. Et le christianisme de la grâce est aussi important dans un monde où il y a un défi écologique énorme. Il faut faire grâce à la nature, pas exploiter la nature. Faire grâce à la nature de l'exploitation et retrouver avec la nature et avec l'environnement un rapport. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non pas d'exploitation, mais un rapport gratuit. Donc, je veux dire par là, on n'a pas toujours eu un christianisme de la grâce, on a eu le christianisme de la loi, on a eu le christianisme de la militance, de la promesse. Je pense qu'aujourd'hui, pour le monde qui vient, il faut penser à un christianisme de la grâce. Et c'est ce que je voudrais, si vous voulez, expliciter un peu aujourd'hui. Alors, très important. Première chose que je voulais dire, quand on parle de grâce, on ne fait pas de la théologie. Parler du mot grâce, ce n'est pas faire de la théologie, c'est parler de l'humain. Si vous pouvez au moins retenir quelque chose de ce que je voudrais dire, c'est de dire la grâce, ça touche l'humain, ça touche notre corps. C'est un concept humain. un concept anthropologique, théologique aussi. Mais il faut la comprendre d'abord dans un sens anthropologique. Ça parle de l'être humain. Et pour comprendre cela, je vous invite à prendre le mot grâce et tous les mots apparentés ou dérivés du mot grâce. Alors, grâce à. On dit ça dans la vie courante, grâce à toi, grâce à ceci, grâce à cela. C'est une expression courante qui est bien humaine. Le mot grâce à indique un chemin par lequel les choses nous sont advenues. Et ce chemin par lequel les choses nous sont advenues, quand on dit grâce à, ça veut dire c'est par le don. C'est inattendu, c'est gratuit, ce n'est pas ce qu'on a produit. C'est grâce à toi que j'ai pu faire ceci, c'est grâce à toi que j'ai... Ça indique un chemin des choses qui nous adviennent gratuitement, par grâce, qu'on n'a pas produit. Grâce à. Alors, je prends d'autres mots. Gratuit, bien entendu. Gratuit. C'est là, il ne faut pas payer. Gratuité. Gratitude. On a utilisé le mot gratitude tout à l'heure. Gratitude, c'est avoir un sentiment de reconnaissance à l'égard de quelqu'un pour ce qu'on a reçu de lui, pour le don qu'il nous a fait. Gratitude. Gratifier. Ce que ça veut dire gratifier, c'est donner quelque chose à quelqu'un sans qu'il paie, sans devoir payer, on gratifie. Il y a le mot gracier. Gracier, c'est pardonner. C'est de faire cette grâce de quelqu'un, de faute qu'il a commise, et on le gracie, on lui fait grâce de devoir payer une dette. C'est ça la grâce. Gratifier, c'est gracier. Gracieux, alors c'est autre chose. C'est intéressant parce que dans le mot gracieux, alors gracieux, on peut dire à titre gracieux. On dit ça, à titre gracieux, c'est gratuit. Mais gracieux, ça veut dire aussi harmonieux, beau, un geste gracieux, un mouvement gracieux. Donc la grâce, c'est lié à la beauté. Il y a d'autres mots encore. Agréer. Abolir, agréer ceci. Ça veut dire venir accepter ceci comme un don qui vous est offert, agréé, veuillez agréer. Vous avez, dans le mot agréé, vous avez le mot gré. On vous dit bon gré, malgré aussi. Bon gré, alors le mot gré, ça signifie deux choses. Ça signifie la liberté. Quand on dit gré, ça indique la liberté. On est obligé. Et dans le mot gré, vous avez aussi contentement. Dans le mot gré, vous avez deux aspects. Consentement, c'est pas obligé, vous n'êtes pas contraint, et contentement. Ça va en même temps. Par contre, de bon gré, ah oui, j'accepte, j'ai dit ça, de bon gré, c'est le contentement et le consentement. Vous avez agréable. Agréable, c'est ce qui est plaisant. Vous avez aussi le mot gracile. Qu'est-ce que c'est gracile? C'est ce qui est un peu faible, ce qui est sans force. Donc, non-violence, si vous voulez. Ce qui est gracile, ce n'est pas violent. C'est un peu faible. Entre parenthèses, le mot grâce, vous avez le correspondant en grec qui est charis grec. Le mot charis, que vous avez, qui donne en français charité. Charisme, Eucharistie. Donc, tout le mot charis et les mots qui sont autour, c'est le même sens que le mot latin gratia, le mot latin, là, le mot latin d'origine, qui donne en français le mot grâce, c'est le mot gratia. Mais je reprends que tous ces mots, qui ne sont pas des mots théologiques, hein, ce sont des mots qui désignent, quoi, qui désignent un certain type de relation à autrui. La grâce, au fond, c'est une qualité relationnelle. C'est une manière d'être en relation. Et dans cette manière gracieuse, gratuite, d'être en relation, vous voyez qu'il y a là un champ humain, relationnel, d'une extrême richesse. D'une extrême richesse. vous avez l'aspect de gratuité, de don, de pardon, de plaisir, vraiment, de beauté, gracieux, de non-violence. Au fond, ces mots de grâce, avec tous les mots apparentés, ils disent quelque chose de l'humain, ils disent les conditions humaines de la joie et du bonheur. Et partir d'un christianisme de la grâce, c'est partir de cela, de cette expérience humaine de la grâce que nous connaissons et qui est fondamentale pour la vie, le bonheur de l'être humain. Le don nous traverse de toutes parts. La grâce, en fait, elle nous traverse de toutes parts. Peut-être que vous connaissez un sociologue, philosophe Marcel Mauss, du début du siècle dernier. Il a étudié, c'est un philosophe sociologue, il a étudié comment les générations, les sociétés antiques, avant le commerce, avant le troc, il a étudié les relations dans ces sociétés primitives. Et ce qu'il a découvert, c'est que ces sociétés primitives, elles vivaient constamment. Les choses bougeaient, les choses circulaient, mais sous le mode du don. Il y avait, au fond, un circuit donner, recevoir, rendre. Et lui, il voyait ça dans les sociétés primitives. C'était la première relation fondamentale qui existait, c'est le donner, recevoir, rendre, le don. Ces sociétés fonctionnaient sur le don. Pas par le commerce, ni par le troc, mais avant cela, fondamentalement, sur le don. Or, maintenant, nous ne sommes plus dans une société comme ça, mais en fait, ce fond de don, il est toujours là. La manière dont nous sommes en relation les uns avec les autres, fondamentalement, c'est le don. Si vous connaissez quelqu'un par le prénom, c'est parce qu'il y a eu du don. Si vous aimez quelqu'un, c'est parce qu'il y a eu du don. Donc le don, il est absolument fondamental dans notre existence, même une existence qui est marquée par le commerce et par tout le système industriel dans lequel nous sommes, on n'échappe pas à cette réalité fondamentale et fondative du don. Alors, je vous donne quelques exemples de manifestations de la grâce dans notre monde. D'abord, vous avez la naissance. La naissance, c'est une grâce. Tout le monde applaudit, on est content. Quelqu'un en Afrique me disait quand un enfant naît et que l'enfant crie, alors on applaudit. On applaudit parce que s'il crie, ça veut dire qu'il est entré en communication. François Dolto, vous connaissez sans doute, elle est pédopsychiatre, elle raconte aussi la naissance. Alors elle dit, il y a une naissance physique du corps. On est dans un corps, très bien, magnifique. Mais elle dit, il y a une autre naissance qui vient s'ajouter à la première. Et elle dit, pour voir ça, quand un enfant vient de naître, fait des grimaces, peut-être pas encore, avant qu'il le tait, il fait des grimaces. Et puis, dit-elle, il faut s'approcher de l'enfant et lui dire, oh, le beau soupir. L'enfant ne comprend pas, c'est pas la question, mais l'important c'est de lui parler. Oh, le beau sourire. Puis répéter ça encore. Oh, le beau sourire. Et puis, subitement, sur les lèvres, vous avez le sourire de l'enfant qui apparaît. Ça, c'est une grâce. C'est la grâce d'entrer non seulement dans un corps humain, mais d'entrer dans une relation où on est accueilli, reconnu, aimé. Ça, c'est comme une seconde naissance. Il y a une naissance physique, mais il y a aussi une naissance à la relation humaine. Et c'est un moment de grâce. Encore d'autres moments de grâce dans la vie. Et je parlais tout à l'heure de Marcel Mauss. Marcel Mauss, il a donné lieu à un mouvement de chercheurs qui s'appelle justement le mouvement Mauss. Ce sont des chercheurs, ils s'appellent comme ça. Et dans le mot Mauss, ils ont pris M, mouvement, A, anti-utilitariste, U, anti-utilitariste dans les sciences sociales. Et il y a la revue, une revue qui s'appelle Revue Mauss. Et donc, mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, ce sont des chercheurs ou des philosophes qui analyse la société sous l'angle non marchand, tout ce qui échappe au fond au système marchand, et où il y a du don, parce que c'est vrai que même dans le commerce, il y a toujours du don. Quand on dit par exemple, et pas du marché, je vous donne ça. Oui, c'est vrai que à l'intérieur même du marché, il y a du don qui circule. Les gens ont besoin de confiance, hein, et pas uniquement de calcul utilitaire. Il y a aussi le don, dans les cas de catastrophe. Quand il y a une catastrophe, il y a le don apparaît. Un des analystes du don, justement, il décrit, hein, ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années au Québec. Il y a eu à un moment donné une pluie, et puis sur la pluie, le verglas, et les fils électriques pris par le verglas sont tous tombés dans le pays. Et donc, plus de courant, plus d'électricité pour se chauffer. Que faire? Il restait le bois. Le bois, on aurait pu dire que l'État allait payer le bois ou que le bois allait être mis en vente et alors le prix allait monter. Les pénuries de bois, donc, on s'attendait à ce que le prix du bois monte. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le bois a été donné, distribué, pour que les gens puissent se chauffer. Et ainsi, c'est dans les situations de catastrophe comme ça, c'est par le don qu'on en sort. Regardez, vous rappelez du tsunami, il y a quelques années, ça a suscité aussi une vague de dons. Et chaque fois qu'il y a une catastrophe dans le monde, ça réveille le don. Donc tout ça pour dire que le don, ou en d'autres termes, la grâce, c'est la même chose. Il est constant dans l'existence. Dans les familles, on vit le don. On ne calcule pas. On ne va pas calculer, ça va, il m'a donné ceci, je rends ça. On est dans le calcul. La famille, par essence, elle fonctionne dans le régime du don. Le bénévolat. Imaginez une société où il n'y a plus de bénévolat, elle s'effondre. Une société vit du bénévolat. La justice, on parle aujourd'hui de justice non pas punitive, mais de justice réparatrice, justement, qui donne une seconde chance. Vous voyez, le don d'organes, le don du sang, donner de son temps, donner de son travail. Beaucoup de gens qui travaillent s'adonnent à son travail. À leur travail, pour pouvoir fournir un salaire à leur famille. Tout ça, c'est du don, les héritages aussi. On ne cesse, enfin, de donner, recevoir, rendre. Et je prends le dire un mot sur la catéchèse. Dans la catéchèse, je pense que nous devons apprendre à nos gens qui sont en catéchèse, leur apprendre à repérer le fonctionnement du don dans le résistance, ou de la grâce, ou la présence. La présence de la grâce. Le champ économique n'échappe pas à l'économie du don, comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours du marché. Qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu? Je veux dire quelque chose qui me semble important, de nouveau, c'est toujours sur le plan humain. Je vais arriver au plan théologique. Sur le plan humain, il est précieux pour une personne, d'avoir dans sa vie au moins une personne dont il a l'assurance d'en être toujours accueilli, aimé, sans condition, sans devoir payer, sans le mériter. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, mais c'est précieux pour une personne, pour quelqu'un, d'avoir au moins une autre personne dont il a cette assurance-là, d'en être accueilli toujours, sans devoir payer, sans condition, sans mériter. C'est une grâce, et une grâce énorme. C'est excessivement précieux. Eh bien, alors j'en arrive maintenant à la théologie. Je ne suis pas parlé de théologie pour le moment, j'ai parlé de l'humain. Et ça nous touche de près, nous voyons bien, ça nous touche dans nos sentiments, ça nous touche dans nos biens, ça nous touche dans notre corps, à l'intime de nous-mêmes. Si je passe maintenant au plan théologique à partir de cette expérience gracieuse dans l'humain, bien, c'est de dire ceci. Dieu est ce. Dieu est cet espace de grâce dans lequel nous pouvons nous dire toujours accueillis, sans condition, sans vérifier, sans devoir payer. Cette grâce-là, elle est donnée. Et elle est donnée à tous. C'est non seulement la grâce d'exister, parce que Dieu donne et nous donne la vie, c'est non seulement la grâce d'exister, mais la grâce d'exister sous un regard aimant. C'est ça, pour le christianisme. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni mort, ni vie. Ni mort, ni vie. Ni souffrance, ni épreuve. Quand on dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, cela inclut aussi nos épreuves, nos souffrances, nos malheurs, nos handicaps. Quelqu'un qui naît avec un handicap, il peut aussi entendre cette parole « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ». C'est une parole qui nous relève y compris des souffrances et de la mort, au moins en espérance. C'est, si vous voulez, cette grâce, c'est d'abord, je peux dire, théologiquement, cette grâce-là, elle est donnée à tous. Dieu est bon pour les ingrats et les méchants, comme dit l'Évangile. Cette grâce-là, elle est donnée à tous. Ou les gens qui rentrent dans la parabole des noces, là, on reçoit à l'entrée des noces, on reçoit un vêtement de lumière. On reçoit le vêtement des noces, selon la parabole, hein, la parabole de Matthieu 28. Alors, ce vêtement des noces, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose que l'on gagne à coup de mérite. C'est quelque chose que l'on reçoit à l'entrée, d'emblée, qui est donné. Et qu'est-ce qui est donné? C'est un regard de Dieu aimant qui nous revêt de lumière. Donc, cet habit de noces-là, il n'est pas un objet de conquête, il est ce que l'on reçoit. Et c'est cette grâce-là dont le christianisme parle. Le christianisme comme espace de grâce dans lequel on est invité à entrer sans le mériter, sans devoir payer, sans condition. Regardez, quand on commence une assemblée chrétienne, ça commence comme ça. Comment commence une Eucharistie? La grâce. Et notre Seigneur Jésus-Christ, l'année du Père, la communion des saints, soit toujours avec nous. Ça commence comme ça. Une assemblée chrétienne, comment une célébration chrétienne, comment tout. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples dans la Bible, le Nouveau Testament, il y a des tas de formules comme ça chez saint Paul notamment. Je vous les cite comme ça, je les énumère. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est ce qu'on dit au début de chaque Eucharistie. Ou encore, Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonicien qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous grâce et paix. Au sein de Colosse, frère fidèle en Christ, à vous grâce et paix de la part de notre Père. À tous les bienheureux de Dieu qui sont à Rome, grâce et paix de la part de Dieu notre Père, au Seigneur et du Seigneur Jésus-Christ, Romain. De la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur, grâce, la paix soit avec vous. Donc, la foi chrétienne, toute assemblée chrétienne, toute vie chrétienne commence par ce vœu, ce don de paix et de grâce. Alors, cette grâce-là, elle est originelle. Au fond, je le mets sur le plan théologique ici, l'origine, notre origine, c'est la bonté. Il y a une bonté originelle, nous sommes entourés de la bonté originelle de Dieu, hein, et le péché originel, j'entends ce qu'on entend par là, le péché originel n'efface pas la bonté originelle dans laquelle nous trouvons l'origine de notre existence. N'oublions pas qu'il n'y a pas de Dieu du mal. Parfois, quand on entend parler de Satan, on imagine comme un Dieu du mal. Il y aurait un Dieu du bien, hein, qui serait Dieu le Père, qui serait lui, et il y aurait le Dieu du mal, Satan, hein, avec un Père. Si on lit la Bible, il n'y a pas de Dieu du mal. Et notre seule origine est la bonté. En d'autres termes, le mal ne fait pas partie de l'origine. Je ne sais pas si vous entendez la force de cette affirmation-là. Il n'y a pas de Dieu du mal et le mal ne fait pas partie de l'origine. Le mal, effectivement, s'est mêlé au bien. Il y a du mal. Hein. Mais il ne fait pas partie de l'origine. C'est comme... Et ce que l'Évangile nous dit, laissez les pousser ensemble. Laissez les pousser ensemble et à la fin, l'ivraie elle-même deviendra du bon gré, du blé, du bon grain. Il y a et la moisson sera à mon temps aussi. Donc, la création, au fond, c'est nous dire que notre origine, elle est la bonté. Et la création est une donation. On entend parfois la création comme une fabrication, Dieu a fait. Si vous lisez la Bible, on voit que la création, en fait, est le synonyme de don. D'ailleurs, ça commence tout ça, dans les premiers jours de la création, Dieu dit, voici que je vous donne. Cette grâce originelle de la création, en plus, elle n'est pas confinée dans le passé. Attention, en catéchisme, on dit souvent cela. Dieu a créé le monde. Qui a créé le monde ? Dieu a créé le monde. Non, Dieu n'a pas créé le monde. Quand vous dites ça, vous confinez la création dans le passé. Non, Dieu n'a pas créé le monde. Il le crée, aujourd'hui encore, et il le créera demain. Donc, il faut entendre la grâce de la création comme quelque chose qui se déploie dans le temps, qui s'étend et qui va jusqu'à l'extrême de lui, comme dit saint Jean, hein, dans la premier chapitre de Jean, de lui, nous avons reçu grâce après grâce. C'est-à-dire que la grâce originelle, elle n'est pas donnée d'un coup comme ça, mais elle se déploie dans le temps. Et elle se déploie dans le temps en s'étendant en plénitude. Jésus-Christ, pour que vous ayez la vie en plénitude, en abondance. Donc c'est l'aspect d'abondance. Cette grâce se déploie dans un aspect d'abondance et se déploie aussi dans un aspect d'extrême. Il les aima jusqu'au bout. Donc cette grâce initiale de la création, la donation initiale, elle se déploie dans le temps. Il y a la grâce du salut, il y a la grâce de la création, qui est une donation première, il y a la grâce du salut, qui est une grâce, au fond, de recréation. La grâce, au fond, elle est donnée et elle se redonne constamment, et elle s'accroît en plénitude et jusqu'à l'extrême. Et cette grâce, nous l'estime à une fin heureuse. Il y a la grâce de la création, il y a la grâce de la recréation du salut, et il y a aussi la grâce de le savoir, de pouvoir le communiquer, d'en faire part aussi aux autres. En d'autres termes, je termine ainsi la réflexion théologique. La mission que nous avons reçue, eh bien, c'est, comme dit saint Jean, ce que nous avons vu et entendu. Ce que nous avons touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons pour que vous soyez en communion avec nous. Et notre communion, elle est avec le Père de Jésus-Christ. Et nous vous annonçons cela pour que votre joie soit complète ou pour que votre joie plutôt soit complétée. Parce qu'il y a de la joie dans la vie, mais votre joie, encore, elle est complétée. Elle va jusqu'au bout. Et le christianisme est un hymne à la joie. Et on y entre comme on entre dans une danse. Encore faut-il qu'un espace s'ouvre, qu'une main se tende et invite à emboîter le pas, invite à à entrer dans la ronde. Vous connaissez ce passage de l'Évangile, qui est joué de la flûte sur la place du marché, pour inviter à danser. Le christianisme est un hymne à la joie, une voyante, comment dire, de danse. Et le mot danse, d'ailleurs, que m'a frappé de cette pensée, en grec, quand on parle de la Trinité, il y a dans la tradition latine, il y a le mot circumincession pour parler des rapports entre les personnes divines. Et dans le grec, c'est le mot périchorèse. Interception en latin, périchorèse en grec. Or, ce mot-là, il signifie danser autour. Donc, c'est l'image d'un Dieu qui est relation et une relation joyeuse, une relation dansante. Et entrer dans le christianisme, c'est entrer ainsi dans ce hymne à la joie, comme on entre dans une danse. Ouais. Et la catéchèse pourrait être avoir comme mission la catéchèse d'être une main tendue pour entrer dans la danse. Donc jusqu'à présent, j'ai parlé de la grâce sur le plan humain, hein, la grâce au cœur de l'humain, et la grâce, vivre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Maintenant, dans un troisième point, je voudrais parler de vivre soi-même de la grâce de Dieu, et comment, en catéchèse, vivre de la grâce de Dieu. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses, bien entendu, mais j'ai résumé en quatre points ce vivre de la grâce de Dieu. Quatre points qui désignent quatre domaines où les chrétiens pourraient trouver un espace d'excellence. Être excellent. Excellent, ça ne veut pas dire plus fort que les autres. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de hiérarchie. Mais où on a un soin particulier au nom même de la foi. Quatre domaines d'excellence où le vivre est appelé de grâce. Alors, ces quatre domaines d'excellence, je les résume à travers quatre mots mobilisateurs. D'abord, le mot hospitalité. Hospitalité. Le mot soin. Le mot bonté. Et le mot accompagner. Alors, quatre mots mobilisateurs, si vous voulez, pour vivre cet aspect de grâce. D'abord, l'hospitalité. Hospitalité, vous savez, c'est un mot qui est apparenté et qui a la même étymologie que hostilité. Hospitalité et hostilité sont des mots qui ont des sens absolument différents, mais ils sont étymologiquement apparentés. Comment ? Parce que ça vient du mot os, qui, au départ, signifie l'étranger. Or, devant un étranger, ou bien vous le considérez comme un ennemi, ou bien vous le considérez comme un hôte. Donc, tout l'aspect, la mission de la catéchèse, ce sens-là, c'est d'inviter à passer de l'hostilité à l'hospitalité. L'hospitalité, dans la Bible, c'est l'espace où Abraham a reçu Dieu lui-même en accueillant trois étrangers, c'est Dieu lui-même qui le recevait. La sainteté hospitalière de Jésus, c'est cette capacité qu'il avait de faire exister l'autre dans la rencontre. Jésus n'a rien écrit, mais ça veut dire qu'il était présent dans chaque rencontre pour que chaque rencontre soit un événement. Et cette autre mission aussi, l'hospitalité. Alors, il y a un texte remarquable dans l'évangile de Luc qui envoie les disciples pour se risquer à l'hospitalité d'autrui. C'est dans le chapitre 10 de l'évangile de Luc. D'abord, Jésus dit qu'il part à plusieurs, par paire. Les deux, ils sont deux. Et ils partent sans moyen de puissance. Sans sac, sans argent. Ne prenez ni sac, ni argent, ni or. Donc, ça Alors, ça ne veut pas dire que la mission va être démunie de tout, mais ça veut dire que la mission chrétienne, elle ne fonctionne jamais par la violence, c'est jamais par la force. Alors, que dit Jésus ? Partout où vous arrivez, là où vous entrez, dites d'abord paix à cette maison. Voyez la grâce. Paix à cette maison. Et pour que la paix s'institue, bien entendu, il faut qu'il y ait un fils de la paix, là aussi. Alors, à ce moment-là, l'alliance, une alliance se crée. Dites paix à cette maison. Si quelqu'un est un ami de la paix, il vous reçoit. Alors là, quand vous êtes reçu, mangez, buvez tout ce qu'on vous offre. L'alliance s'institue. Guérissez les malades. Ce sont les œuvres de bienfaisance. Et dites, le royaume de Dieu est arrivé. Là, je pense, là, c'est Jésus faisait ça. Les disciples qui faisaient comme Jésus exerçaient cette même sainteté hospitalière. Allez, partez, risquez-vous. Jésus ne dit pas soyez accueillants. Ça m'a toujours frappé, ça. Jésus ne dit pas soyez accueillants. Il dit risquez-vous à l'accueil chez l'autre. Soyez accueillis. Risquez-vous à l'accueil. Partout où vous entrez, dites paix à cette maison. S'il y a là un enfant de paix, eh bien, la paix va s'instituer. Mangez et buvez ce qu'on vous donnera. Vous voyez aussi, c'est très corporel. Mangez, boire, c'est la convivialité concrète. Hein. Et guérissez les malades, ce sont les œuvres de bienfaisance. Et puis, après les œuvres de bienfaisance, dites le royaume de Dieu s'est approché. C'est ça, au fond, la mission dans laquelle nous sommes invités à entrer. Dire, à travers cette convivialité-là, dans la grâce est partagée, le royaume de Dieu est arrivé. Vivre l'hospitalité réciproque, c'est entrer en conversation, c'est partager un repas. Je crois aussi que cette hospitalité-là dont je parle, elle invite, je crois, à ne plus nous diviser en croyants et non-croyants. Il y a un théologien tchèque, Thomas Halik, je ne sais pas si vous connaissez, il vient d'écrire un livre, L'après-midi du christianisme, où il dit ceci. Beaucoup de ceux qui ont perdu la foi en l'Église ne sont pas devenus athées, mais chercheurs. Ils font partie d'une grande famille de chercheurs qui, très probablement, représentent la majorité des Européens. Ça me paraît intéressant de sortir de la division croyants et non-croyants. Au fond, nous sommes tous des êtres humains chercheurs, en quête de vrai, de bien et de beau. Et sur ce chemin, de laquelle il faudrait du bien et du bon, exercer l'hospitalité, dire paix à cette maison. Et si l'autre est un enfant de la paix, alors on entre en alliance, on entre en connivence et on parle. Il y a là, si vous voulez, tout l'art de la conversation, parler avec les gens dans cet esprit d'hospitalité. Et la catéchèse, par excellence, est un lieu de rencontre, est un lieu de conversation, est un lieu de parole, nous faisons de la catéchèse un lieu de grâce dans la conversation. Ça, si vous voulez, c'est le premier terme mobilisateur, l'hospitalité. Le deuxième terme mobilisateur, deuxième domaine où nous pouvons nous efforcer d'exceller, c'est le soin. Le soin. Ou en d'autres termes aussi, la compassion. Vous vous rappelez sans doute de la phrase du pape François qui dit ceci: je vois avec clarté, dit-il, dans une revue jésuite, c'est l'État catholique, que la chose dont l'Église a le plus besoin, c'est la capacité de soigner les blessures, de réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après la bataille, dit-il. Soigner. Nous devons soigner. Et c'est vrai que dans la catéchèse, nous rencontrons des personnes, des gens, des enfants qui ont des blessures. Faire attention à ça, soigner. Ou le soin, c'est un autre mot pour dire le soin, c'est la compassion. L'aptitude à la compassion. Donc l'aptitude, ça c'est le premier point. L'aptitude à l'hospitalité, on y recevoir prendre dans l'hospitalité. La deuxième, lieu d'excellence, domaine d'excellence, le soin, soigner les blessures. Et soigner les blessures, ce n'est pas uniquement les blessures où quelqu'un souffre de quelque chose, mais c'est aussi prendre soin d'eux. Quand on fait les choses avec soin, c'est un service d'autrui. Faire toute chose avec soin, c'est une manière de se mettre au service d'autrui. Donc, le soin, ce n'est pas simplement thérapeutique. Oui, il y a le soin, c'est un effet thérapeutique, mais ça signifie aussi prendre soin de faire les choses toujours avec soin. Et c'est la meilleure manière d'être au service d'autrui. En toutes circonstances, travailler avec soin, le soin qu'on apporte à toute chose, est un service d'autrui. Ça, c'est le deuxième mot aussi, des mobilisateurs pour construire dans le service de la grâce, le soin ou la compassion. Donc, l'hospitalité, l'accueil réciproque, le soin, la compassion. Et un troisième mot, peut-être, qui est mobilisateur pour une catéchèse de la grâce, c'est le mot beauté. Ce pourrait être le troisième domaine d'excellence où, comme chrétiens, nous avons à exceller. Veiller à la beauté, soigner la beauté, restaurer la beauté. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit il y a le mot gracieux. Et le mot gracieux indique l'harmonie, indique la beauté. La beauté des âmes. C'est vrai. Quand il y a un lieu qui est propre, qui est décoré, qui est beau, ça déjeune, ça pacifie. Donc on sort de la violence et on respecte le lieu. Et la beauté, d'ailleurs, elle est le reflet de notre dignité. La beauté des âmes, elle lutte contre la violence. Et le respect du beau, c'est en même temps entrer dans une attitude de non-violence. Et en catéchèse, veiller à éduquer les enfants, les jeunes, ont rappelé en tout cas l'importance de la beauté, sauvegarder l'environnement, veiller à la beauté du décor, veiller à la beauté des lieux de rencontre, veiller à la beauté des lieux de culte. Tout cela fait partie de la grâce. Et aussi, mettre nos comportements dans le champ de ce qui est beau. Ça fait sortir en fait la morale du devoir. La morale, c'est aussi mener une vie belle. Conduire des actions qui sont reproduites comme belles. Et vous voyez, ça fait passer la morale dans le champ de l'esthétique, de l'invention d'une vie belle. Pas simplement d'un devoir à accomplir, mais inventer une vie belle. Ça fait partie de cette catéchèse de la grâce, sortir d'une catéchèse moralisante en ce sens-là, mais quand on parle de la morale, c'est situer la morale dans le sens de l'invention d'une vie belle. On peut reconnaître qu'on peut être bonne et belle. Et peut-être le dernier mot, je terminerai par là, le dernier mot, le quatrième domaine où nous avons à exceller, c'est le mot accompagnement. Et ici, c'est l'accompagnement, le domaine d'excellence dans lequel nous sommes invités à entrer, c'est l'accompagnement dans l'initiation chrétienne. Le mot accompagnement dans l'évangile, c'est accompagner le Christ. On dit souvent dans l'évangile, on suit le Christ. La suite du Christ. Et en fait, c'est le mot akolutéo qui est utilisé dans la Bible, dans l'Évangile. Et akolutéo ne veut pas dire suivre, ça veut dire accompagner. Donc nous sommes invités non pas à être des suiveurs de Jésus-Christ, mais nous sommes invités à être des accompagnants, marcher à côté. À un moment donné, Pierre dit il veut s'opposer à Jésus. Bon, Seigneur, tu ne le feras pas. Et Jésus dit passe derrière moi, Satan. Passe derrière, plutôt que d'accompagner. Donc, on n'est pas invité à être des suiveurs de Jésus-Christ. On est invité à être des compagnons, surtout compagnons de Jésus. Jésus dit, on a pris ce mot-là, on n'est pas des suiveurs. Nous sommes des compagnons qui marchons ensemble. Et ça aussi induit toute une manière de faire la catéchèse. Vous ne faites pas la catéchèse pour que l'autre vous suive. Il faut faire la différence entre croire avec et croire comme. Nous n'invitons pas les enfants, les jeunes ou les adultes à croire comme nous. Ça, ce serait en faire du suiveur. Nous invitons à croire avec nous. Je ne sais pas si vous voyez la différence, c'est une différence énorme. Nous n'avons pas une sorte de volonté de faire que l'autre soit tel que je suis. Nous n'avons pas à faire en sorte que l'autre croit comme je crois. Nous allons faire en sorte que l'autre croit avec moi, à sa manière, et qu'il puisse inventer sa propre manière d'être chrétien et marcher avec l'autre. Donc, le mot accompagnement est un mot très riche, parce qu'il dit aussi une modalité de relation que nous pouvons vivre dans la catéchèse. Alors, cet accompagnement, bien entendu, ce qu'il faut, je crois, souligner aussi, c'est que ce ministère d'accompagnement, ce n'est pas uniquement par les catéchistes qui le font, c'est la communauté chrétienne elle-même qui accompagne les catéchistes. Ce sont les communautés chrétiennes, finalement, qui sont catéchisantes. Voilà. Et dans le mot initiation, vous avez le mot in-ire, le mot initiation, vous avez l'aspect de chemin et de début. Et on entre dans un chemin. Et la catéchèse, c'est accompagner les gens, surtout au début, dans le début du chemin de la croix. Voilà, je vais terminer là-dessus en disant peut-être, en rappelant, que le christianisme est un hymne à la joie. Et on y entre comme dans une danse. Encore que un espace s'ouvre, c'est l'autre qui s'entre dans la danse, puis les mains se tendent pour inviter à emboîter le pas et entrer dans la ronde. Voilà, c'est ce que je vous souhaite comme catéchiste. Merci pour votre écoute.